Alors, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons lire un passage dans le psaume 103. Psaume 103. Nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 103. Mon âme, psaume de David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Asseyez-vous. Ce sont des paroles que nous pouvons prendre et les dire et les prier en même temps, comme beaucoup de psaumes qui sont des expressions de reconnaissance comme celui-ci, mais aussi qui porte en elle les différentes émotions, les différentes choses par lesquelles nous pouvons passer. Donc, le titre de la de message, c'est l'introduction, le premier mot de ce psaume. Mon âme bénit l'Éternel. C'est une exhortation que David a fait à lui-même, où il s'invite à bénir Dieu. Et qu'est-ce que bénir Dieu? Qu'est-ce que pour un homme de bénir Dieu? Normalement, on comprend bien les choses quand on dit que Dieu nous bénit. Hein? Si Dieu nous bénit, on voit bien que ça va dans ce sens. La Bible le dit d'ailleurs, dans Hébreux chapitre 7 au verset 7, il dit que c'est, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Autrement dit, Dieu, celui qui est grand, qui a les richesses, bénit ceux qui sont inférieurs. Mais comment comprendre que l'homme puisse bénir Dieu? Parce que c'est ce que David dit ici. Et quand nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul utilise les deux sens, le mot béni attribué à l'homme et puis attribué à Dieu. Donc Éphésiens 1, 3, je vous le lis, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Vous avez vu, « Béni soit Dieu le Père » et qui bénit Dieu ici, c'est l'homme. Il dit « Voilà, nous bénissons Dieu le Père » et il dit que le Dieu qui nous a bénis. Donc la bénédiction de Dieu vient en premier et puis ensuite en réponse la bénédiction de l'homme vient après. Et donc, on pourrait dire ici que la bénédiction, c'est ce que l'on offre à Dieu en retour de bienfaits qu'il nous a accordé. Et comment s'exprime cette bénédiction? Eh bien, si on lit Hébreu chapitre 13, verset 15, nous pouvons lire « Par Jésus-Christ, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Et donc, bénir Dieu, c'est offrir le fruit de lèvres, de la bouche, qui confesse le nom de Dieu. Donc, c'est apporter des paroles. C'est bénir Dieu, pour nous, c'est essentiellement dire des choses en reconnaissance aux bienfaits qu'il nous a accordés. Pas simplement les penser, mais les exprimer, les dire. Et on trouve cette pensée déjà aussi dans l'Ancien Testament, où ils avaient l'habitude d'offrir des sacrifices d'animaux pour en guise de reconnaissance. Ici, pour nous, sous la Nouvelle Alliance, on n'offre pas des animaux, mais on offre un sacrifice qui est le fruit de lèvres, des mots que nous prononçons, des choses que nous disons à l'égard de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y a déjà cette pensée, dans Osée chapitre 14, verset 2, nous pouvons lire « Apportez avec vous », c'est Dieu qui parle, il dit « Apportez avec vous des paroles et revenez. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Et nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. » Au lieu d'animaux, l'hommage de nos lèvres. Parfois, ça va être au lieu de choses que l'on offre avec nos mains, on pourrait dire. On offre des choses avec la bouche qui prononce des choses qui viennent du cœur et un cœur régénéré. Et ça, c'est l'offrande de reconnaissance que Dieu veut. Donc, on pourrait dire ici, je le résume ainsi, la bénir Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, bénir Dieu consiste à exprimer verbalement la reconnaissance à Dieu pour les bénédictions dont nous sommes l'objet de la part de Dieu. Et c'est ce que David fait ici. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et après, il va dire un certain nombre de choses. Il va dire, pourquoi son âme bénit l'Éternel? Et on voit que ce qu'il dit, c'est une réponse qu'il entend par bénir Dieu, c'est une réponse à ce que Dieu a fait à son égard. Et donc, il invite ici son âme à louer et à bénir Dieu, et à exprimer envers Dieu des paroles qui sont des paroles de reconnaissance. Donc, nous voulons regarder un peu ce qu'il exprime ici et comment cette bénédiction s'exprime. Donc, premièrement, on peut souligner ici que bénir Dieu, ça implique l'engagement de l'être tout entier. Quand on lit ce passage, il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Donc, son âme et tout ce qui est en lui. On peut essayer d'imaginer, mais qu'est-ce qui est en nous? Il ne parle pas de ses entrailles, mais il parle de toutes ses affections, de son cœur, de son intelligence, n'est-ce pas? Et toutes ces choses, on va le voir tout à l'heure, mais il les convoque. Donc David, il parle à lui-même. Il exhorte son âme. Parce que souvent, vous savez, nous ne sommes pas très reconnaissants. On n'est pas naturellement reconnaissant. Le frère a cité un texte tout à l'heure dans lequel il soulignait cela au début de la présidence, que nous ne sommes pas des personnes reconnaissantes. On n'est pas naturellement reconnaissant. Comme certains le disent, il y en a qui disent, moi je suis naturellement, c'est mon tempérament, j'aime bien dire merci aux gens. C'est pas vrai. C'est pas vrai, nous ne sommes pas naturellement reconnaissants. Et même les auteurs du monde le reconnaissent. On pourrait citer Alfred de Musset qui dit « Le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine. » Il dit que quand les gens nous font du bien, souvent, ça tombe dans le tombeau de notre ingratitude. On a du mal à dire merci. On a du mal à reconnaître, à prononcer des mots pour dire des choses. Et William Shakespeare disait « Souffle, souffle, vent d'hiver, tu n'es pas si cruel que l'ingratitude de l'homme. » Il préférait encore être exposé à la morsure sévère du froid de l'hiver plutôt qu'à l'ingratitude humaine. C'est dire que même ces hommes avaient reconnu que la nature humaine est ingrate. Et je pense que j'avais dit dans le temps déjà, mais l'histoire de cet homme qui avait sauvé, il y avait eu un naufrage sur un lac, et puis il avait, lui, il était sur le rivage, et il a dû nager plusieurs fois pour aller sauver des personnes, et il en a sauvé, je ne sais plus, quelques-unes en tout cas, je ne sais plus combien, et il les a ramenées parce que c'était vraiment, les gens ne pouvaient pas se sortir elles-mêmes de ce naufrage. C'était un jeune homme qui avait entrepris des études, Et donc, il l'a fait au péril de sa vie parce qu'il était tellement épuisé qu'il a failli lui-même se noyer. Et puis, il a gardé des séquelles toute sa vie de ce sauvetage qu'il avait accompli. Et je crois qu'il a même pas pu continuer des études, pour ce faire des études théologiques qu'il avait entreprises. Donc, il a dû arrêter cela. Et à la fin de sa vie, je crois, on lui a posé la question, de ce qu'il retenait, je crois. Bon, je ne sais plus tous les termes de ce qu'il avait accompli. Et il a dit que ce qui l'a marqué le plus, c'est que pas une seule personne de toutes celles qu'il avait sauvées n'est revenue pour lui dire merci. Pas un seul mot, quoi. Merci. Et ça fait penser à l'histoire qu'on a eue tout à l'heure des 10 lépreux, n'est-ce pas? Ce qui l'a frappé, c'est que les gens ne sont pas, c'est pas que les gens n'y ont pas pensé. C'est pas que les gens n'ont pas dit, ah, je suis reconnaissant à cet homme. Dans leur cas, ils ont dû le dire. Hein, ils ont dû se dire, c'est pas mal comme ce jeune homme, vraiment il a dit, quelle chose, s'il n'était pas là, je serais pas là aujourd'hui. Mais c'est pas ça encore la reconnaissance. La reconnaissance c'est plus que cela. C'est pas de penser en soi-même, c'est de l'exprimer aussi aux gens. Et c'est David, quand il parle ici, il dit, mon âme bénit l'Éternel, il pousse son âme et il exprime des choses qu'on voit ici. Il met tout son être pour qu'il puisse exprimer sa reconnaissance à Dieu. Donc les hommes ne sont pas reconnaissants naturellement entre eux, mais ils ne sont pas reconnaissants non plus envers Dieu lorsqu'il lui accorde des bienfaits. Dieu lui-même, il dit ceci, il dit, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Et c'est Dieu qui parle ainsi en Ésaïe chapitre 1. Et au verset 2. Et donc, cette parole aurait pu être celle de parents, n'est-ce pas? Quand on entend ça, j'ai élevé, combien de parents peuvent dire, ouais, je les ai élevés, mais maintenant, ils m'ont complètement tourné le dos. Pas un signe de reconnaissance. Et ça arrive dans notre monde, n'est-ce pas? Et là, c'est Dieu lui-même qui parle par rapport à son peuple. Et dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul souligne, je vais pas lire tout le passage, mais souligne que l'ingratitude est la marque même de l'impiété et du péché. Dans Romains 1:18, il dit que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et injustice des hommes. Et un peu plus bas dans ce passage, il dit que ces hommes sont inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié et ne lui ont pas rendu grâce. Et donc, ils caractérisent leur péché par le fait qu'ils n'ont pas été reconnaissants, qu'ils n'ont pas rendu grâce à Dieu. Et donc, David, lui, il engage vraiment son être là-dedans, dans cette action de grâce, cette reconnaissance. Et il mobilise son être tout entier. Il dit, tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. C'est-à-dire son intelligence, sa force, sa pensée, sa mémoire, tout est appelé dans l'être humain pour pouvoir glorifier Dieu. Et je vous lis cette citation d'un philosophe juif, qui est né avant Jésus-Christ et mort 45 après Jésus-Christ. Il dit, il n'y a point d'œuvre plus propre à Dieu que de répandre ses bienfaits, ni à la créature que de rendre grâce. Ouais, Dieu, voilà, il répand ses bienfaits. Et en retour, ce que la créature puisse faire comme œuvre la plus grande, c'est de rendre grâce à Dieu. Il dit, celle-ci considère la nature humaine, l'homme humain doit, la créature humaine doit considérer qu'elle ne peut rendre en retour quoi que ce soit d'autre à Dieu que de la gratitude. On ne peut rien lui offrir d'autre que de la gratitude. Et il y a une seule œuvre qui nous appartienne, dont nous puissions honorer Dieu, c'est de lui rendre grâce. Et encore, cette œuvre-là, c'est lui qui l'initie en plus, qui nous donne la possibilité de le faire. Mais, et donc nous sommes encouragés à le faire avec soin, toujours et en toutes circonstances. Donc, engager l'être entier. Bénir Dieu, c'est convoquer son être tout entier à exprimer la reconnaissance pour ce qu'il fait. Deuxièmement, bénir Dieu implique aussi une juste comptabilité des bienfaits de Dieu. Si vous regardez la suite de notre passage, David énumère, il dit ce que Dieu a fait. Regardez verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Au verset qui guérit toutes tes maladies. Verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et donc, voyez, il dit, il compte, hein, on a chanté tout à l'heure, hein, compte les bienfaits de Dieu. Il compte. Et il voit qu'il y a beaucoup de choses que Dieu accomplit. Donc c'est pour ne pas oublier, hein, mon âme bénit l'Éternel, il dit que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour ne pas oublier, il faut énumérer, il faut compter. Hein. Quand on ne compte pas, on oublie. C'est pas juste de l'avoir dans la mémoire. On peut avoir quelque chose dans la mémoire et on oublie, hein. On oublie la chose, il faut qu'on la rappelle. Ah oui, je me rappelle de ça. Elle était dans ma mémoire quand même. Mais il faut, d'accord? Pour ne pas oublier, il faut dire, il faut répéter la chose, il faut la dire, hein, que vous-même vous puissiez l'entendre. Et c'est ce que David fait ici. Il dit les choses pour ne pas les oublier. Parce que nous sommes promptes à oublier même les choses les plus grandes, les dons les plus grands que l'on nous fait. Hein. Alors bien sûr, notre orgueil parfois nous pousse à dire « jamais je pourrais oublier ça, je ne pourrais jamais oublier ». Mais la réalité de notre expérience montre que nous oublions, hein, les bienfaits que l'on nous a faits. Et Dieu, en parlant au peuple d'Israël qui était sur le point de rentrer dans le pays de Canaan, lui dit ceci dans Deutéronome chapitre 8 au verset 10, il dit « lorsque tu mangeras et que tu te rassasiras », c'est-à-dire auparavant, il a passé 40 ans dans le désert, il était dans la précarité, Dieu lui avait fait subir la faim et la soif, et maintenant ils vont rentrer dans un pays où coule le lait et le miel, et là ils auront la prospérité. Et ça nous arrive souvent dans nos... Parfois, on est dans une situation difficile, précaire, et puis à un moment donné... Ça change et Dieu permet que, voilà, on a un travail, on construit sa maison, on fait sa famille, etc. Et puis il arrive qu'on oublie, hein, qu'on oublie Dieu. Et donc Dieu dit ceci au peuple, Deutéronome 8, 10, il dit, lorsque tu mangeras, que tu te rassasiras, tu béniras l'Éternel, bénissez l'Éternel, c'est ce que David dit, mon âme bénit l'Éternel, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ces commandements. La prospérité est un risque, souvent, dans lequel on peut oublier même que c'est Dieu même qui nous a donné cette prospérité. Et ici, on voit que Moïse encourage le peuple et lui dit que voilà, Dieu veut que tu le bénisses. Et comment on peut ne pas oublier en bénissant Dieu? Et comment on bénit Dieu? En proclamant et en énumérant tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Donc, tenir une juste comptabilité de Dieu, ici, David le montre en attribuant à Dieu la cause première de tous ses bienfaits. Regardez ce qu'il dit au verset 3, verset 4 et verset 5. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Verset 4, c'est lui qui te délivre ta vie de la fosse. Verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est Dieu qui fait ces choses. Hein. Souvent, on ne rend pas grâce à Dieu parce que on pense que c'est nous-mêmes qui sommes l'auteur de nos bienfaits. C'est par la force de mon bras que j'ai fait ceci. Et j'entendais un homme politique qui parlait en disant, voilà, là, on peut arriver maintenant à un déconfinement, le virus, la circulation du virus a été ralentie. Et il dit, bien sûr, cela n'est pas arrivé par miracle. Il dit, c'est parce que nous avons mis en place des choses. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est pas Dieu qui aurait pu faire les choses. Nous avons travaillé, nous avons fait ceci, etc. Oui, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui ralentit les choses. David dit même ici, c'est Dieu qui guérit toutes tes maladies. C'est pas le médecin qui guérit la maladie. Ce n'est pas le médicament qui guérit la maladie. c'est Dieu qui guérit. Il y a des gens qui vont voir des médecins, qui prennent des médicaments et qui ne guérissent pas. Il y a des gens qui sont malades, qui ne vont pas voir le médecin, qui ne prennent pas de médicaments et qui guérissent. D'accord ? Dans les deux cas, c'est Dieu qui guérit. Dieu peut guérir en utilisant des instruments ou il peut guérir en utilisant aucun instrument. Et j'ai vécu cette expérience avec les semaines passées, quand j'étais vraiment malade et j'avais des maux de tête, et j'ai souvent des maux de tête. Donc je suis habitué aux maux de tête, même si je n'aime pas ça, mais... Mais là, j'avais des maux de tête comme j'avais jamais eu. J'étais vraiment alité, je pouvais pas bouger, des maux de tête, et je pouvais pas dormir, je pouvais pas trouver une position sur le lit. Et à un moment donné, j'ai dit à ma femme, je crois que voilà, ma tête, elle va exploser. Je sens que ça va exploser là-dedans. C'est pas possible que ça se termine pas comme ça. Doliprane, ça faisait rien du tout. Une nuit, j'arrivais pas à dormir, et donc nous avons prié. Et 2 minutes après, j'avais plus mal à la tête. Mais c'est-à-dire, je suis passé de mal de tête comme je n'avais jamais connu auparavant à rien. C'est pas juste que c'est diminué comme ça et puis au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est passé. C'était 2 minutes après qu'on ait terminé de prier, j'avais pas mal. J'avais pas du tout mal. Et jusqu'à présent, j'ai eu 2 fois mal à la tête depuis, mais c'était vraiment très, 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 très léger. Et tout ça pour vous dire que, oui, Dieu peut décider de guérir le mal de tête avec le Doliprane. Il peut le faire aussi sans le Doliprane. D'accord? Mais dans les deux cas, qui c'est qui guérit? C'est Dieu. Et c'est ce que David veut dire. Il dit que lorsque nous avons des bienfaits, que ce soit dans notre santé, que ce soit dans n'importe quel domaine, pensons à bénir Dieu. Et pas dire, ah, heureusement que j'ai pris des Doliprane, parce que c'était... Heureusement que j'ai rencontré un tel qui m'a dit de prendre des Doliprane. Non, c'est Dieu. Et c'est ça, qu'on ne loue pas suffisamment Dieu parce qu'on a du mal à attribuer à Dieu les bienfaits qu'il nous accorde dans quelque domaine que ce soit. Et David dit bien ici, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et c'est pour marquer que c'est vers Dieu qu'il faut regarder pour tous les bienfaits qu'il nous accorde dans notre vie. Et concernant l'histoire du peuple d'Israël, Moïse leur dit la même chose. Quand ils vont rentrer dans le pays de Canaan et qu'ils vont être prospères, ils peuvent dire, ah, c'est grâce à moi que maintenant le sol a rapporté, j'ai travaillé le sol, j'ai labouré au bon moment, j'ai surveillé la lune, etc., la pluie, et puis ça a apporté de bons fruits. Eh bien, Moïse leur dit ceci, il leur dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui, ouais, la même chose que David, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Deutéronome chapitre 8, versets 17 et 18. Voyez, garde-toi de dire, c'est ma force qui m'ont acquis ces richesses, parce que c'est Dieu qui t'a donné la force. Il a utilisé la force de ton bras pour que tu puisses travailler le sol, le labourer, mais c'est lui qui amène la pluie, le soleil, etc. Moi, j'ai un gazon que j'aimerais bien voir vert. Je suis content du beau temps, mais pas mon gazon. Il est déjà tout grillé, on est au mois de juin. Même pas, il est grillé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Il faut que Dieu amène la pluie et qu'il puisse... Donc, c'est lui qui fait toutes choses et on doit être conscient de cela. Et s'il était vert, je ne devrais pas dire, ah, heureusement que j'ai mis de l'engrais, j'ai fait ceci. Non, c'est parce que Dieu a fait les choses. C'est toujours Dieu qui est l'auteur de toutes choses qui se passent dans notre vie, surtout de tous les bienfaits. Donc, se souvenir de ces bienfaits implique attribuer à Dieu la cause première de tous ces bienfaits. Mais se souvenir aussi de ces bienfaits en, on l'a dit, David, en les énumérant spécifiquement et dans un bon ordre. Regardez comment David dit les choses. Première chose qu'il cite ici, dans les bienfaits de Dieu, c'est le pardon des iniquités. Et ça, on pourrait dire, c'est la rédemption, c'est le rachat, c'est le salut, c'est les bienfaits des bienfaits, c'est le bienfait par excellence ici. Donc il le cite en premier, ce n'est pas du tout anodin. Moïse, il parle pareil, quand je reprends l'exemple du peuple d'Israël, il dit, Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu, tout ça quand tu vas rentrer dans le pays de Canaan, hein, que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Hein. Il dit pas que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a nourri dans le désert. Que tu n'oublies pas l'Éternel ton Dieu qui t'a donné, mais dit que tu n'oublies pas l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Autrement dit, ils focalisent leur pensée sur la rédemption qu'ils ont obtenue. C'est-à-dire la délivrance du pays d'Égypte. Et Dieu a, vous lisez l'Ancien Testament partout, hein, c'est marqué de ne pas oublier le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Autrement dit, la délivrance du péché, hein, pour nous aussi, c'est l'équivalent, eh bien, est ce que l'on devrait avoir constamment dans nos pensées, hein, plus qu'autre chose. Et Calvin disait ceci, il dit que la réconciliation avec Dieu est la fontaine d'où jaillissent toutes les autres bénédictions. Si un homme peut avoir la guérison, la prospérité, tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas le pardon des péchés, toutes ces bénédictions vont disparaître un jour. Et il sera perdu à tout jamais. Et donc la bénédiction qui nous permet d'apprécier toutes les autres, c'est vraiment celle d'avoir l'assurance que nos péchés sont pardonnés par Dieu. Et donc le croyant doit toujours avoir dans sa pensée la reconnaissance et le dire avec des mots, remercier Dieu pour le salut, chanter le salut que Dieu nous a donné. Comme il dit dans l'épisode, mais annoncer ce salut-là. Donc David le fait ainsi, il énumère, mais il met bien en tête ici ce que Dieu a fait dans sa vie concernant le pardon de ses péchés. Et dans le, pas tout à l'heure, mais dans le catéchisme d'Heidelberg, il y avait, de 1563, il y a une question qui est ainsi formulée. Combien de choses dois-tu nécessairement savoir pour vivre et mourir dans cette vie heureuse, dans cette heureuse assurance? Il y avait une question sur l'assurance. Et la réponse est celle-ci. Il y a trois choses à savoir. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère? Ensuite, comment j'en ai été délivré? Et enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance? Voilà comment il résume la vie de l'enfant de Dieu. Hein. Savoir que mon péché est grand, savoir à quel prix j'en ai été délivré, et être à tout jamais reconnaissant à Dieu pour cette délivrance qu'il nous a accordée. Et c'est ce que David fait ici, quand il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Il dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités ». Et puis bien sûr, il n'oublie pas le reste. Mais il met en position bien, bien élevée le fait d'avoir ses péchés pardonnés. Troisièmement, bénir Dieu implique aussi la méditation du caractère, que l'on médite le caractère de Dieu. David, bien sûr, dit ce que Dieu a fait. Il cite les œuvres de Dieu. Mais il va maintenant parler de qui est Dieu. Regardez à partir du verset 8, il dit « L'Éternel est miséricordieux. » Ce n'est plus ce que l'Éternel a fait, c'est lui qui a fait ceci. Maintenant, il dit ce que l'Éternel est, son caractère, sa nature. Et on peut lire un peu cette section, il dit « L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Et plusieurs fois, il parle de sa bonté. Verset 11, il dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Et puis encore au verset 13, il parle de sa compassion comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Au verset 17, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Et donc il parle de qui est Dieu. Il va nous livrer des attributs de Dieu, on pourrait dire. Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, Dieu est lent à la colère. Dieu est compatissant. Et toutes ces choses sont importantes à savoir lorsque l'on veut bénir Dieu. Parce que Dieu fait ce qu'il fait parce qu'il est ce qu'il est. Dieu agit en raison de ce qu'il est dans sa nature. Dieu agit avec bonté envers nous parce qu'il est bon. Il agit avec miséricorde parce qu'il est miséricordieux. Et nous pouvons comprendre ce que Dieu fait lorsque nous avons une idée de qui Dieu est. Sinon, ça peut nous paraître incompréhensible. Hein. Donc, on ne peut pas dissocier, si vous voulez, ce que Dieu fait de ce que Dieu est. Et David, quand il rend grâce à Dieu, quand il loue Dieu, il énumère ce que Dieu fait, mais aussi il médite profondément sur ce que Dieu, ce qui Dieu est. Hein, c'est pour ça que nous apprenons dans le catéchisme, qu'est-ce que Dieu, hein, et qu'on dit que Dieu est hein, éternel, infini, vous pouvez réciter le reste, hein, je pense. Hein. Voilà. Donc, et ça nous permet de comprendre comment Dieu agit. Donc David, il le fait ici, et il nous montre vraiment Dieu dans l'étendue de ses compassions, dans l'étendue de son pardon, dans, on pourrait dire aussi, l'étendue de sa miséricorde, et puis aussi de sa souveraineté, hein, ici. Donc il dit d'abord que Dieu est un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. La grandeur et la bonté de Dieu se manifestent ici par sa lenteur à la colère. Vous voyez, il est lent à la colère parce qu'il est miséricordieux et qu'il est riche en bonté. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, n'est-ce pas ? Parce que il a déjà puni quelqu'un d'autre pour nos iniquités. Et donc, ceux qui reçoivent Christ ne seront pas punis pour leurs iniquités. Ceux qui ne le recevront pas, ceux qui n'auront pas placé leur confiance en Jésus-Christ, qui n'auront pas cru en Jésus-Christ, eh bien, paieront pour leurs iniquités éternellement. Mais ici, il dit que ceux qui sont au bénéfice de la grâce de Dieu, eh bien, Dieu ne les punit pas pour leurs iniquités. D'accord? Et même, cela exprime aussi l'idée que Dieu est lent à punir même. L'Épître aux Romains nous parle de Dieu qui, ou peut-être plutôt, je sais pas si c'est aux Romains évidemment, mais qui parle de péché que Dieu a laissé impuni au temps de sa patience. Hein. Donc Dieu n'est pas Dieu qui est tout le temps en colère, comme quelques-uns veulent faire croire, mais et qui est lent à la colère. Et beaucoup de passages le disent aussi. Hein. Ésaïe 57, verset 16 dit « Je ne veux pas contester à toujours, Dieu dit cela, ni garder une éternelle colère. » Quand devant moi tombent en défaillance les esprits et les âmes que j'ai faites. Dieu est sensible à cela. Il dit, voilà, il y a des gens qui tombent, qui me disent, je ne veux pas garder ma colère et frapper à toujours. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui nous préserve de la colère à venir. Donc, il pourvoit le moyen d'échapper à cette colère. Et Psaume 78, 38 dit, toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne, l'iniquité et ne détruit pas, il retient souvent sa colère et ne se livre pas toujours à toute sa fureur. Souvent Dieu retient sa colère, dit le psaume 78. C'est extraordinaire cela. Donc nous sommes là parce qu'il a retenu sa colère. Tous ceux qui sont en vie sont là parce qu'il a retenu sa colère. Mais sa colère demeure, dit la Bible néanmoins, sur celui qui n'a pas reçu encore Jésus-Christ. Elle est là, potentiellement là, et elle s'abattra tôt ou tard, si cette personne ne se tourne pas vers Christ. Mais c'est un Dieu compatissant, lent à la colère. Voilà, qui montre l'étendue de toute sa grâce, de son pardon qu'il accomplit envers chacun d'entre nous. Alors je vais quand même dire aussi, si vous regardez les versets 14 et jusqu'au verset au verset 16, 14 et 16, Dieu est miséricordieux au point où il je vais dire, il est, parce que je voulais le dire comme ça, mais il est sensible à notre misère, à notre fragilité, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière, que les jours de l'homme sont comme l'herbe, qu'il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Voilà. Dieu, il a souci de notre misère, de notre faiblesse, et il agit avec miséricorde envers nous, et c'est lui qui nous a fait. Et il sait qu'on est en rien. On est là aujourd'hui, et demain, on n'est pas. Okay. Il tient notre souffle dans ses mains. Il sait que ce souffle-là, il est extrêmement fragile. Il le sait. Hein. Donc ce n'est pas le Dieu tout-puissant qui écrase tout ce qui est plus petit que lui. Pas du tout. C'est un Dieu tout-puissant et qui a compassion de nous qui sommes d'une extrême fragilité. Et là, David décrit... montre qu'il est conscient de sa propre fragilité. Hein, il nous décrit comme la fleur de champ, comme une herbe qui est là aujourd'hui puis qui n'est plus là demain. Et puis même le souvenir de cette personne s'efface. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Hein. Il y a des gens qui vivent quelque part et puis c'est évident que ces personnes-là sont là, hein, qu'elles vivent. Et puis ces personnes disparaissent, mais le lieu change aussi. et le lieu ne reconnaît plus qu'il y avait quelqu'un même qui était là. C'est, voilà, ça, c'est notre vie, la poussière. Voilà comment nous devons nous considérer. Mais Dieu, il est plein de bonté, il dit ici. Et sa bonté dure. Autant l'homme est fragile et passager, autant la bonté de Dieu est éternelle. Autant sa bonté dure à jamais. Autant, il dit les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et on ne peut pas mesurer la distance qui sépare les cieux de la terre, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus atteindre les bornes de la bonté de Dieu. Autant c'est grand, cette distance est grande, autant, eh bien, sa bonté est grande aussi, donc infinie pour ceux qui le craignent. Donc, ici, on voit, vous pouvez reprendre, mais David médite sur le caractère et la nature de Dieu, les attributs de Dieu. Et c'est ce qui lui permet de comprendre comment Dieu agit et quelle relation il entretient avec nous qui sommes poussière. Hein. Et ça, c'est important pour nous de le faire. Et quatrièmement, pour terminer, on va dire que bénir Dieu implique une exhortation aussi à l'adoration, un appel à l'adoration des autres. Il dit, bénissez, regardez verset 20, il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. C'est un appel appel des autres à bénir Dieu. Celui qui bénit Dieu véritablement, il a le désir que les autres bénissent Dieu. Il a le désir que le monde entier bénisse Dieu. On n'est pas égoïste avec Dieu. Ah, c'est mon Dieu pour moi. Je l'adore, je l'aime, je le loue, et puis peu importe ce que les autres font. Pas du tout. Hein. Celui qui aime Dieu veut attirer les autres à Dieu. Hein. Veut que... ça arrive souvent quand les gens sont fiancés, hein, comme vous passez, vous remarquez, hein, mais quand ils sont fiancés, quand ils voudraient que tout le monde remarque la personne qui est à côté, hein, et ils vont parler bien, ils vont dire du bien d'elle, ils vont exagérer souvent, mais ils vont dire du bien d'elle, ils vont dire, ah ouais, tu sais pas comment elle est, surtout le jeune homme, mais la jeune fille, ah, il faut voir comment elle est gentille, tu vas, ah non, elle est extraordinaire. Et ils voudraient que la terre entière voit cette personne, qui est la meilleure de la planète, hein. Eh bien, je crois que quand nous sommes au Seigneur aussi, que l'on bénit Dieu, on devrait vouloir que les autres le connaissent, et les autres le louent. Et c'est la volonté de Dieu d'avoir des adorateurs. Et donc, nous devons agir de manière à aider les autres à tourner leur regard vers Dieu. Et je me souviens de Paul et Silas dans la prison. Ils ont agi de cette manière-là. Hein. La Bible dit qu'ils étaient emprisonnés. Et à minuit, ils faisaient quoi? Ils chantaient les louanges de Dieu. Et qu'est-ce que le texte spécifie? Et les prisonniers les entendaient. Pas écoutaient, ils les entendaient. Peut-être qu'ils ont écouté, certainement. Mais il a dit qu'ils les entendaient. Je pense que si ce petit détail est mis là, c'est parce que c'est important. Ça veut dire qu'ils louaient Dieu à haute voix, déjà, puisque ça s'entendait. Ça veut dire, moi, je loue Dieu dans mon cœur. Non, non, non. Bénir Dieu, c'est le dire à haute voix, même dans les circonstances difficiles. Hein. Les prisonniers l'ont entendu. Et ça a conduit à quoi, in fine? À la conversion du geôlier. Une âme, une famille de plus qui pouvait louer maintenant Dieu. Hein. Et c'est cela, hein. Quand on loue Dieu, on est dans une attitude où on invite aussi les autres à bénir et à louer Dieu. Donc ici David dit, bénissez, il voudrait que tous bénissent l'Éternel. Et donc Dieu a placé, je crois, Dieu est placé, si vous voulez, dans sa vie d'une manière telle qu'il en parle et il voudrait que tous puissent aussi, comme lui, rendre gloire à ce Dieu-là. Et ça doit être aussi notre souci d'annoncer l'Évangile autour de nous. Que le Seigneur nous donne cette grâce. Et Dieu nous a fait grâce, il nous a fait la grâce d'être là dans ce temps difficile que nous traversons. Ce n'est pas pour replonger dans notre routine, mais c'est aussi en tant qu'enfant de Dieu pour être des témoins, de personnes qui louent Dieu et qui le bénissent à haute voix, pour que les autres l'entendent et puis que ça soit probablement un appel aussi à d'autres de venir à Christ et d'être aussi des adorateurs de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à considérer donc ceci. Je résume ici que David, dans sa manière de bénir Dieu, eh bien, il engage premièrement, bénir Dieu, c'est engager tout son être, hein, inviter son être tout entier à le faire, pas simplement notre corps, danser, frapper des mains, bouger les mains, ça peut être bien, mais on peut faire ça sans honorer Dieu, c'est tout l'être. Le corps, l'âme et l'esprit qui doivent être engagés là-dedans, toutes nos facultés, nos émotions. Et puis, deuxièmement, on voit que David comptabilise, il compte les bienfaits de Dieu. Donc, apprenons à les dire, à les énumérer, à dire Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, etc. Sans oublier la place qui revient au fait d'être racheté de nos péchés. Ça, c'est, même s'il n'y avait pas tout le reste, ça, c'est la chose, la bénédiction des bénédictions, pour laquelle toute notre vie, nous ne devrions jamais cesser de louer Dieu. Et puis, troisièmement, David médite sur la nature de Dieu. Qui est Dieu? Et c'est important, quand on fait les cours Vérité Fondamentale, on parle des attributs de Dieu. Alors, on peut trouver ça, non, si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas adorer Dieu. Et Dieu lui-même, c'est lui-même qui se décrit par ses attributs. C'est pas les gens qui ont écrit que Dieu est comme ça. C'est lui qui s'est décrit par ses attributs pour que nous puissions le connaître de cette manière-là et que nous puissions saisir maintenant tout ce qu'il fait de manière, dans un cadre juste. Et puis, aussi, ayons, quand nous bénissons Dieu, ce témoignage qui fait que nous allons être soucieux de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur et pour les attirer aussi à lui. Mon âme, dit David, bénis l'Éternel. Que ce soit notre aspiration, que ce soit notre cri d'adoration aussi aujourd'hui. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel. Vous voyez bien que ce psaume commence avec « Mon âme, bénis l'Éternel » et il termine avec « Mon âme, bénis l'Éternel ». David a bouclé la boucle, on pourrait dire. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole et oui, nous voulons apprendre comme David a exhorter notre âme à te bénir. Et donne-nous de considérer encore ces choses, à les méditer, et vraiment d'être reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, tu es un Dieu grand, merveilleux, tu nous as gardé de bien des choses, mais par-dessus tout, tu nous gardes de la colère à venir. Combien de fois il est dit ici dans ce psaume que tu agis envers ceux qui te craignent, que ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. Seigneur, nous te louons de ce que tu as placé ta crainte dans nos cœurs et que tu nous as mis au bénéfice, la grâce de ta grâce. Merci encore pour cela. Et je te prie, Seigneur, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, afin que tu les attires à toi. Que ce temps difficile que nous continuons à traverser soit un temps qui les ramène à la repentance et qu'ils puissent sentir, comme ça a été dit dans la prière, que tu uses de patience envers nous. Ne voulant qu'aucun périsse. Seigneur, agis puissamment pour la gloire de ton nom et que les âmes te louent, que les nations viennent à toi et se réjouissent en toi pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, que Dieu